Nous allons ce matin dans l'évangile selon Marc, qui est l'évangile que nous suivons pour ce temps de l'Église cette année, au chapitre 8, les versets 27 à 30. Jésus et ses disciples partirent ensuite vers les villages proches de Césarée et de Philippe. En chemin, il leur demandait: « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent: « Certains disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es l'un des prophètes. » « Et vous ?» leur demandait Jésus. « Que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre lui répondit: « Tu es le Christ. » Alors Jésus leur ordonna sévèrement de ne parler de lui à personne. Les nombreuses générations de chrétiens qui nous ont précédés, et tout particulièrement au temps de la Réforme, ce mouvement qui, il y a 500 ans, donnait naissance à ce que sont devenus petit à petit nos églises, ses prédécesseurs lisaient ce texte-là et bien d'autres, ces écritures anciennes, avec passion. Cette lecture passionnée mais assidue aussi provoquait chez eux une seule obsession: il fallait permettre ou rétablir pour ceux de leur temps une quête de Dieu authentique. Débarrassés à la fois du poids excessif des institutions et des doctrines qui sont sans doute utiles mais qui sont surtout périssables et qui ne rassurent qu'un temps. Les institutions qui encadraient et qui portaient nos ancêtres protestants avaient leur rôle et leur importance. Elles l'ont aujourd'hui encore. Leurs affirmations de foi avaient une grande valeur pour eux. Elles leur ont permis de traverser des choses bien plus pénibles que ce que nous n'avons jamais eu besoin de traverser nous-mêmes. En lisant la Bible, ils avaient pourtant aussi compris que le provisoire, l'instabilité qui avait traversé la vie des personnages bibliques, qu'ils relisaient incessamment, ne pouvait que traverser aussi la nôtre. Héritiers de cette vaste histoire, nous aussi, nous n'ouvrons ce vieux livre que pour y découvrir des questions ouvertes qui exigent du travail, de la patience, plutôt que des réponses toutes prêtes, destinées à alléger notre charge mentale, mais qui nous déçoivent assez vite parce que ce sont toujours celles des autres. Le texte de ce jour parle, lui aussi, d'une relation particulière, difficile à mettre en place, cette recherche d'un tête-à-tête, ce désir de savoir ce qui nous fonde. C'est le sens de la question de Jésus aux disciples. Tout commence par cette question importante: qui suis-je aux yeux des autres ? Il faut bien comprendre cette question, ne pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas. C'est très différent de « comment suis-je perçu ?» ou bien « que dit-on de moi ?» Ce n'est pas la même chose. Jésus n'est pas en train de s'inquiéter de sa réputation ou du « qu'en dira-t-on ?» Si ça avait été son obsession ou sa préoccupation principale, il n'aurait sans doute pas fini comme il a fini. C'est sa réalité même qui est en question. Les réponses fusent d'ailleurs de tous côtés. « Oh, c'est Jean-Baptiste, c'est Élie ou l'un des prophètes. En tout cas, c'est ce qu'ils disent de toi. » En somme, les premières réponses sont celles de la tradition qui veut se perpétuer en se répliquant. Si possible, à l'identique, sans jamais y arriver d'ailleurs. La suite du texte montre que ce n'est pas ce que Jésus attendait des disciples. Qu'on confonde Jésus avec Jean-Baptiste, qui lui était contemporain, passe encore. On le comprend facilement. On a plus de mal à comprendre la confusion des personnages issus du passé, toute une lignée de prophètes. Il faut se souvenir que ces quelques versets arrivent juste avant l'épisode de la Transfiguration, où cette hésitation, ce besoin de trouver un fil rouge pour légitimer quelqu'un est encore présent, très fort. Quand les disciples redescendront avec Jésus, il sera seul avec eux. On peut estimer qu'à ce moment-là, ils ont compris. Au moment de notre texte du jour, pas encore. On a du mal donc à comprendre la confusion avec des personnages du passé, toute une lignée de prophètes qui seraient en quelque sorte de trop. Et puis, les disciples ne risquent pas grand-chose à rapporter les réponses des autres, même si elles sont mauvaises. Si vous avez faux, vous pouvez toujours dire « j'ai copié » ou « on me l'a dit ». Comme ça, vous vous déchargez de votre responsabilité. Mais surtout, les confessions de foi approximatives et faites par procuration ne satisfont pas Jésus. Ce n'est pas le sens de sa question, ce n'est pas ce qu'il attendait d'eux. Et c'est pourquoi la deuxième question atteint les disciples. Cette fois, ils vont comprendre. Qui dites-vous que je suis ? C'est un engagement personnel qui est demandé, une réponse travaillée, fabriquée par chacun. Un travail, un effort. Fini la facilité des réponses à apporter par les autres, fini le confort des certitudes du passé, Élie, les prophètes, Jean-Baptiste, certes, et nous les gardons précieusement en mémoire. Mais Pierre, qui comprend le premier parce que c'est un fonceur, prend la parole et donne une réponse personnelle. C'est le premier à le faire. Une réponse personnelle qui rejoint le présent et engage l'avenir de tous les disciples. Tu es le Christ. C'est-à-dire celui qui était attendu, que nous attendons depuis longtemps, que nous avons pu reconnaître peut-être dans toute cette lignée. Aujourd'hui, c'est toi là devant nous. Celui qui était attendu est maintenant là et c'est toi. À partir du moment où Pierre prend la parole, ce ne sont plus les habitudes, bonnes ou mauvaises, qui habitent nos réponses, mais plutôt l'inattendu et la nouveauté d'une réponse personnelle en forme de prise de risque. On passe de l'un à l'autre. Voilà comment il faudra confesser sa foi, c'est-à-dire comment dire en qui on a confiance. D'abord, ne pas se tromper sur la personne, et puis le dire dans le présent, parce que ça engage notre avenir proche, à court ou à moyen terme, et peut-être à long terme. On pourrait arrêter d'ailleurs la lecture du texte, mais ce petit paragraphe ne s'arrête pas à ce verset. Tout n'est pas pour le mieux une fois que c'est dit. C'était bien, il fallait le dire, mais ça n'est pas terminé. Jésus surprend encore ses disciples en commandant sévèrement à tout le monde, pas seulement à Pierre, de se taire, de ne rien dire à personne. Surprise ! Et pourtant, nous savons bien pourquoi Jésus fait cette réponse. Le titre de Messie, celui qui est attendu, promis, annoncé, et qui est enfin là, ce titre de Messie nous paraît à nous bien simple à comprendre. Nous arrivons après. Nous n'avons pas à nous poser la question du qui est-il aujourd'hui. C'est fait. Le titre de Messie paraît simple, univoque, sans ambiguïté, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pour eux, ça n'était pas le cas. En réalité, le statut de Messie se prête à beaucoup de malentendus. On peut facilement vous prendre pour un réformateur religieux, un prédicateur itinérant de plus. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé aussi à Jésus, ici ou là. Mais Jésus souhaite passer par un autre chemin, plus difficile et certainement moins glorieux. La suite a prouvé que c'était le cas. Pourquoi doit-il commencer par une question ? Et en particulier celle-ci, « Qui dites-vous que je suis ?» Elle semble posée à tous en même temps, mais il ne faut pas s'y tromper, elle se pose à chacun d'entre nous. Comme pour mieux nous dire que la réponse qu'ont apportée Pierre et peut-être les autres dans leur tête, silencieusement ou beaucoup plus tard, ne pourra pas être la nôtre exactement. Cette question attend notre réponse aujourd'hui. Qui est-il pour nous maintenant ? Avec une question la plus importante de toutes, nous n'avons plus qu'à parcourir le monde pour trouver les réponses qui correspondent. C'est ça, la confiance ou la foi. On ne nous demande pas d'acquiescer à un catéchisme ou de l'archiver quelque part, de l'accumuler en disant que c'est fait et qu'on a, avec cet apport évidemment important, fait l'essentiel si on ne s'est pas soi-même mis au travail. Il faut trouver une réponse personnelle. Nous sommes bel et bien renvoyés à notre responsabilité de faire quelque chose de ce qu'on nous transmet. Alors évidemment, les disciples, surtout chez Marc, ne comprennent pas immédiatement ce qu'on leur dit. C'est presque une constante dans l'évangile de Marc. Elle est très courte, donc si vous la relisez en une heure, comme ça, d'un bout à l'autre, vous verrez, les disciples ne comprennent jamais rien. On est tenté de se dire, quelle bande de lourdeaux. Ils n'ont rien compris. Oh, encore cette fois-ci. Et là, pas encore. Ah là là. Pauvres disciples. Bon, ne rions pas trop vite. Les difficultés des disciples, parce qu'une réponse simple aurait peut-être été mauvaise, cette hésitation est peut-être aussi salutaire pour nous. Attendons avant de répondre. Ça peut paraître étrange, mais ce n'est pas dans les certitudes que se trouve la foi, celle qui s'assène assez rapidement, parce qu'en général, on les tient de quelqu'un d'autre, qu'on les a mémorisées, et que du premier au dernier mot, ça sort tout seul. La foi est tout entière dans nos questions et qui ouvre des possibilités quasiment infinies. Et là, ça peut prendre du temps, mais au moins, cette réponse est la nôtre. Eh bien, nous sommes là pour ça, en Église, pour apporter notre propre réponse. C'est une bonne nouvelle, cette bouche cousue des disciples, cette impossibilité ou cette difficulté à répondre. Nous avons tous devant nous le mouvement d'une quête permanente, et eux aussi étaient dans cette situation-là. Voyez par exemple dans les quelques lignes que nous avons relues, la fréquence du mot « chemin » ou « cheminer » ou « avancer vers » qu'on trouve dans le grec dans lequel ce texte a été écrit et qu'on nous traduit par « chemin » ou « cheminer ». Dans les versets que nous avons lus, Jésus interroge les disciples en chemin. C'est en chemin que s'expriment les incompréhensions des uns et des autres. Tous sont constamment en mouvement. Ils n'étaient pas dans un amphithéâtre ou dans un lieu comme le nôtre à écouter quelqu'un qui parle, à prendre des notes et à les taper au propre en rentrant chez eux. C'est comme s'il était impossible pour eux de s'arrêter. C'est comme s'ils avaient déjà compris que écouter, c'est écouter en marchant. La foi qui fait dire à Pierre que Christ est présent n'est pas un objet de collection ou un pieux souvenir. C'est une invitation à le suivre. La bonne nouvelle que nous venons chercher ici n'est pas un petit supplément, un bouche-trou, un savoir, une manière de combler un manque ou de satisfaire un peu sa curiosité. C'est savoir poser la bonne question et ne pas lâcher cette question jusqu'à ce qu'elle dise enfin un peu quelque chose. Renouveler notre comportement quotidien par une vraie dynamique de vie, c'est sûrement parce que ce qui change la vie est le fait de mouvements et de rencontres. Il n'est pas nécessaire que ce soit spectaculaire, d'ailleurs, ça ne l'a pas été pour les disciples et ça ne l'est pas forcément pour nous non plus. Mais sans cette confiance, il est certain que nous ne pouvons rien faire. N'oublions pas que cette question s'adresse à nous, et vous qui dites-vous que je suis. L'étonnement des disciples vient du fait que tout ce qu'ils pensent, solide, bien établi, parce qu'hérité du passé, gravé sur du papier, du parchemin ou dans du marbre, cette chose solide ne suffira plus. Ils le comprennent ce jour-là. Il est beaucoup plus fécond de se tenir seul devant lui, devant ce maître, prendre la question qu'il nous envoie et mieux le suivre avec notre flot de questions. Nous voici au commencement d'une nouvelle année, culte de rentrée, reprise des activités, soudée autour d'une parole que nous venons réentendre ensemble pour en faire quelque chose, de notre côté, pour nous-mêmes, mais aussi tous ensemble en Église. Nous voici au début de cette année avec toutes les questions qui nous passionnent et qui nous intriguent. C'est justement dans les années de tous les groupes qui se sont présentés devant vous encore cette année que ces questions ressurgissent et qu'il s'agit d'en faire quelque chose. C'est justement dans les années découvertes, passerelles, jeune théologie, chez les confirmants aussi, que l'on se pose des questions. On est là pour ça. Beaucoup plus que pour enregistrer des réponses toutes faites. Et c'est très bien comme ça, ça veut dire que nous sommes en route vers quelque chose d'essentiel pour nous, que nous l'approchons avec envie, avec appétit. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui les jeunes de tous les groupes au seuil de cette nouvelle année pour leur dire ceci: vous avez des questions, elles vous mèneront loin, elles vous feront cheminer parce que tout ce que vous avez à apprendre se trouve dans ces questions, pas plus, pas moins que les adultes que vous avez en face de vous et qui ont aussi les leurs. La foi, c'est exactement cela. Elle vous permettra de vous faire votre propre chemin. Et puis rassurez-vous, vous ne serez pas tout seul. Ceux qui vous accompagnent sont là pour partager ce voyage avec vous, comme les disciples en chemin, toujours en train de se questionner et d'avancer pour aller chercher un morceau de réponse qui soulèvera une nouvelle question, et ainsi de suite. Ceux qui vous accompagnent vous feront partager ce qu'est une église, où la foi n'est pas une collection de choses anciennes à garder dans une armoire ou à archiver dans sa mémoire, mais plutôt une excursion ou une découverte. Les réponses de chacun, de chacune trouveront, que chacun trouvera, ces réponses seront personnelles, mais nous ferons le voyage tous ensemble. D'ailleurs, après la reprise de la semaine prochaine, la deuxième rencontre sera une sortie, si je me souviens bien. Nous serons déjà en quête de quelque chose ou en mouvement. Amen.